16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission dans laquelle je traite d'histoire et Mathieu Noël, lui, la maltraite. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, c'est un bon résumé de ce qui nous attend en effet, même si aujourd'hui, vous savez, vu notre thème, l'heure est à l'introspection. Pourquoi suis-je si méchant?
Oui, c'est
pourquoi
vrai.
Ce besoin de moquer l'autre, de le rabaisser en toutes circonstances? Une fêlure dans l'enfance, peut-être? Cette enfance à la Dickens, dans le faubourg mal-aimé de Genève, où j'ai vécu, et au cours de laquelle peut-être un jour ma mère a oublié de me râper ma truffe d'été sur mes coquillettes à la pâte à negra? Ou pire, a-t-elle confondu truffe d'été et truffe d'hiver? Je vais peut-être entamer une psychanalyse, Stéphane.
Ah, le timing est parfait, mon cher Mathieu. Allongez-vous sur le divan.
À volontiers.
Oui, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi, à la rencontre des grands psys de l'histoire. Commencer par le premier, celui qui a mis au point la méthode qui vise à faire parler le patient pour soigner ses névroses. On met Sigmund Freud sur le divan.
Carrément, Sigmund.
Vous savez, j'ai une éducation un peu germanique.
Alors oui, ça s'entend.
Je martèle les mots comme ça. Puis je vous raconte ensuite la merveilleuse Françoise Zolto, celle qui a marqué l'histoire de la psychanalyse en donnant la parole aux enfants. Et vous, Mathieu, quel grand psy de l'histoire vous avez choisi?
Alors, il n'est pas grand techniquement, puisqu'il ne mesure hélas qu'un mètre 68 avec ses Weston, mais grâce à son incomparable sens de l'écoute, il a su redonner vie à l'émission culte d'Henri Chapier, le divan, devenant le psy cathodique le plus célèbre de ces dernières années. Retour sur le parcours de Marc-Olivier Fogiel, qui, vous allez voir, me doit beaucoup. Ou est-ce l'inverse? Je ne sais plus. L'un des deux, en tout cas.
Oui, tout le monde rit quand on parle de lui, parce que c'est vrai que c'est votre mentor, en fait.
C'est vrai, avec
et
vous.
Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs. Et ma chronique sera un petit peu mélancolique aujourd'hui.
Non,
si,
non.
Parce que
non,
je...
Mais
si, si. Mais quand même, si, vous allez voir, vous allez découvrir des choses sur un cas social au XVIe siècle. Un jeune homme, psychiquement fragile, qui avait une enfance malheureuse. Et hélas, pour lui, à son époque, il n'existait aucune cellule de soutien psychologique. Sinon, il aurait mieux tourné, vous verrez.
Et puis...
Lui, il n'a pas très bien tourné non plus.
Non.
Hein.
Non. Il tourne très bien les sauces. C'est Olivier Pouls.
Oui, je me permets tout de suite de vous corriger, Mathieu. Votre mère n'a pas pu confondre la truffe
c'est
d'été
la
et la tubermanosporne parce qu'elle ne pousse pas au même moment.
Non, mais je me présente. Ma mère n'a évidemment jamais confondu les truffes. Hein, évidemment, quand même. On savait vivre chez les Noëls. Hein.
Vous me rassurez.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Olivier?
Alors, une histoire que d'abord, c'est un plat que j'adore, mais c'est surtout une histoire que j'adore. Et à un moment, dans l'humanité, on se demande toujours, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête d'un gars pour qu'il se dise, tiens, on va manger ça? Eh ben, c'est les cuisses de grenouille. Mmh. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête d'un type pour que, voyant passer ses batraciens, il dit, tiens, allez hop, dans mon assiette.
Il n'avait rien d'autre sous la main.
C'est pour les expériences qu'on faisait à l'école, vous savez.
Et on les découpait. Alors, moi, je les mangeais aussi après.
Ah non, arrêtez.
Alors, ça fait longtemps qu'on n'a plus d'expérience sur les animaux à l'école.
Je sais, mais sous
la Troisième République, il y avait pas mal d'expériences, effectivement.
Mais heureusement, ça ne se fait plus.
Enfin, Stéphane, vous commencez à connaître David Castello-Lopez.
Ce qu'il veut, c'est de l'alcool et des putes.
Oui, non, mais ce qu'il veut à l'antenne, en tout cas, c'est nous éclairer sur l'origine des objets, inventions de notre quotidien, quoi, hein, David?
Tout à fait. Aujourd'hui, quelque chose qui a quand même révolutionné un petit peu notre quotidien, bon, c'est les surgelés.
Complètement.
Mais oui, avant, comment on faisait? On était en difficulté, et maintenant, on a les surgelés. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé
entre les deux? En difficulté, on faisait la cuisine.
Ou alors, on avait des gens pour faire la cuisine. Ah, que Stéphane veut dire.
Chez les Noël, par enfin, exemple.
C'est peut-être lié à l'invention du congélateur, en réalité.
Aussi. Non, mais c'est la question, c'était celle du transport maritime, de pouvoir exporter, déplacer de la nourriture.
Je vois que vous parlez beaucoup de congélation et très peu de surgélation, donc je ferai la différence.
Très bien. Alors, ensuite, vers 5h-10, vous semblez oublier ce qui se passe à 5h-10 chaque jour.
C'est un quiz sur, si vous voulez, des histoires naturelles, la vie des bêtes, sur toutes sortes de choses.
Vous adorez les bêtes, il faut dire à nos auditeurs la chemise que vous portez aujourd'hui, une chemise avec des petits insignes de petits ours polaires.
Des ours polaires,
c'est très mignon et ça a un sens.
Parce qu'ils n'ont plus d'habitat.
Ils n'ont plus d'habitat et vous êtes là pour le rappeler.
C'est pas plutôt parce qu'elle était en solde?
À l'aéroport de Cracovie ou je ne sais plus où.
Bucarest.
Je crois que c'était ça.
J'ai acheté à l'aéroport de Bucarest. Il me restait un peu de monnaie.
En tout cas, tout à l'heure, on jouera à Bern to be alive. Une fois de plus, Stéphane perdra. Mais je ne dévoile pas le résultat à l'avance. Mais tout de suite, partons à la rencontre du père de la psychanalyse. Stéphane Bern nous raconte Sigmund Freud.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Comment parler de psychanalyse sans parler de Freud ? Impossible. C'est lui qui a mis au point cette méthode qui vise à faire parler le patient pour soigner ses névroses. À vous, Stéphane, la lourde responsabilité quand même de mettre Freud sur le divan.
Oui, vous avez raison, Mathieu. C'est une très lourde responsabilité que de parler de Freud. Nous sommes à Paris en 1885 dans l'amphithéâtre de l'hôpital de la Salpêtrière. Toute la bonne société se réunit chaque semaine pour assister aux leçons du mardi du grand neurologue Jean-Martin Charcot. Face à lui, des patientes placées sous hypnose présentent des signes de paralysie et de convulsion. Il les fait disparaître, montrant ainsi que l'hystérie n'est ni une simulation, ni une maladie neurologique, mais bien une maladie fonctionnelle. C'est une névrose. Il la rapporte à une cause génitale, le mot hystérie, comme vous le savez, venant du grec hyster, qui signifie utérus. Stupéfait, un médecin autrichien de 30 ans assiste à ces démonstrations. Il s'appelle Sigmund Freud. À la suite de ce maître, il expliquera que l'hystérie résulte d'un conflit psychique d'origine sexuelle. Formé comme chercheur en biologie, Sigmund Freud a commencé très tôt à travailler sur la sexualité, mais celle des anguilles. On les dit hermaphrodites, est-ce vrai ? Ses recherches n'aboutissent pas. « Toutes les anguilles que je découpe appartiennent au sexe faible », constate-t-il. Sous la direction d'Ernst Brücke, grand patron de la physiologie viennoise, il étudie ensuite le système nerveux du pétromison, une forme primitive de poisson. Il fait alors ses premiers pas en tant que neurologue aux côtés de son ami Josef Breuer, spécialiste des maladies nerveuses. En 1881, Freud obtient son doctorat et rencontre l'année suivante Martha Bernays. L'amour est immédiat, les besoins financiers aussi. Contraint de renoncer au plaisir de la recherche en laboratoire, Freud s'installe alors comme médecin praticien. Dans une lettre, il rend hommage à Charcot. « L'un des plus grands médecins dont la raison confine au génie. Personne n'a jamais eu autant d'influence sur moi. Il m'arrive de sortir de ses cours comme si je sortais de Notre-Dame, tout plein de nouvelles idées sur la perfection. » S'il est impressionné, il est quand même à l'aise dans les soirées mondaines du Faubourg Saint-Germain organisées par Charcot. Car pour combattre sa neurasthénie et le rendre euphorique, rien de tel que la cocaïne. C'est pas un conseil, hein, Mathieu.
Non.
Juste avant son départ pour Paris, Freud écrivait à Martha « Prends garde, ma princesse. Quand je viendrai, je t'embrasserai à t'en rendre toute rouge. Et si tu te montres indocile, tu verras bien qui de nous deux est le plus fort. La douce petite fille qui ne mange pas suffisamment ?» ou le grand monsieur fougueux qui a de la cocaïne dans le corps. De retour à Vienne, Dr Freud reçoit tous les jours dans son cabinet entre 8h et midi et de 15h à 21h. Il abandonne l'hypnose pour la méthode cathartique et pratique aussi l'électrothérapie. Puis, jusque tard dans la nuit, il écrit sur l'hystérie. Jusqu'en 1897, Freud fait l'hypothèse que les névroses, et notamment l'hystérie, trouvent leur origine dans les abus sexuels que tous les enfants auraient subis de la part des adultes au sein de la cellule familiale, père, oncle, etc. C'est la théorie de la séduction, mais elle est fausse. Il y renonce et montre finalement que les patientes inventent en toute bonne foi des scènes de séduction qui n'ont pas existé dans la réalité. Ce sont des fantasmes. Et même si ces scènes ont existé, elles n'expliquent pas elles seules l'éclosion d'une névrose. En effet, les névroses ne sont pas toutes liées à un traumatisme réel. Sa pensée évolue au gré de ses rencontres, comme celle de Wilhelm Fliess, ce médecin berlinois dont les théories extravagantes sur la sexualité le fascinent. Et c'est avec Josef Breuer qu'il publie en 1895 un livre qui deviendra célèbre, « Les études sur l'hystérie », dans lequel sont relatés plusieurs cas de femmes hystériques, dont celui de Bertha Pappenheim, patiente de Breuer, surnommée Anna O. La légende veut qu'elle ait inventé la fameuse cure par la parole qui deviendra la psychoanalyse. La nouvelle discipline est née. La psychanalyse que met au point Freud est un mouvement de rénovation des médecines de l'âme reposant cliniquement sur la méthode des associations libres. Elle consiste à faire remonter les scènes traumatiques de l'enfance à l'origine des névroses. Freud conceptualise la notion d'inconscient, déjà utilisée avant lui et notamment par des philosophes du romantisme allemand. À la mort de son père, Freud effectue un travail de remémoration de son propre passé et construit le complexe d'Œdipe en s'appuyant sur une nouvelle lecture de la tragédie de Sophocle. J'ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants. Il apporte une nouvelle définition à la notion de stade pré-génital, oral et anal et génital en fonction de l'évolution du sujet et de sa relation à quatre zones érogènes qui se répartissent sur quatre régions du corps auxquelles correspondent les actes simples de la vie quotidienne des enfants. Succion du pouce, sein de la mère ou encore masturbation. De cette période d'introspection résulte son ouvrage « L'interprétation des rêves » publié en 1900. Étant donné la qualité littéraire du livre, Freud s'attend à toucher un large public. Mais il n'obtient d'abord qu'une large audience parmi la communauté scientifique avant de devenir progressivement un classique pour les écrivains et les poètes, et notamment pour les surréalistes. Le succès n'est donc pas immédiat. S'il se dit mécréant, Freud revendique aussi son appartenance au judaïsme. Il s'affirme juif au sens de la judéité et pas de la religion. Comme tous les juifs viennois, il subit des persécutions de la part des antisémites. Il n'obtient pas le prix Nobel car la psychanalyse n'est ni une science ni de la littérature, inclassable donc. Mais c'est quand même avec une immense fierté qu'il reçoit le prix Goethe en 1930. Il faut dire que Goethe, c'est son écrivain favori. Le père de la psychanalyse a ses fidèles disciples, Sandor Ferenczi, Otto Rank, Karl Abraham, Carl Gustav Jung et plusieurs autres, qu'il retrouve chez lui lors des réunions du mercredi qui deviendront bientôt la Société psychanalytique de Vienne. En 1909, Freud, Ferenczi et Jung sont invités aux États-Unis. Jung est déjà connu outre-Atlantique, mais Freud triomphe et conquiert une immense audience. La rivalité entre les deux hommes n'arrange pas leur relation. Le conflit est inévitable. Ils se séparent en 1913 dans la douleur et la violence. Les désaccords entre Jung et Freud sont nombreux. Parmi eux, la théorie sexuelle de Freud que rejette Jung. Jung reproche à Freud de mettre la sexualité au cœur de son travail sur les névroses. Mais ça ne l'empêche pas d'être un fervent adepte des relations charnelles avec les femmes, patientes et disciples. Freud, quant à lui, souffre d'abstinence pendant ses longues fiançailles. Les femmes, à cette époque, devaient rester vierges jusqu'au mariage, d'où d'énormes frustrations sexuelles. À 40 ans, après la naissance d'Anna, son sixième enfant, il cesse, en accord avec Martha, toute relation charnelle. Et en 1920, Freud va au-delà du principe de plaisir dans un livre où il introduit de nouvelles pulsions, celles de mort, Thanatos, et de vie, Eros. Il porte aussi un regard sur son temps dans une correspondance entretenue avec Albert Einstein. Pourquoi la guerre en 1914? Une bonne question à laquelle les hommes ont malheureusement trop souvent la réponse puisqu'ils sont sur le point de recommencer. Clairvoyant sur la psyché humaine, Freud est aveugle face à la montée du nazisme en Autriche. Il ne voit pas venir l'Anschluss. En 1933, ses livres sont brûlés à Berlin. Les nazis le surnomment le faux médecin juif de Vienne. Mais quand ils entrent dans la capitale autrichienne en 1938, Freud est poussé à l'exil par son amie Marie Bonaparte. Elle paye alors la rançon exigée par les nazis pour tous ceux qui veulent quitter l'Autriche, et plus encore les juifs victimes aussi de l'antisémitisme autrichien. Freud part pour Londres, ses quatre sœurs seront exterminées par les nazis. Grand tabagique, malgré les conseils de son entourage, Freud fume près d'une vingtaine de cigares par jour. « Lorsque je renonce à cette douce habitude, explique-t-il, mes intérêts intellectuels diminuent fortement. » Fumer inspire le père de la psychanalyse, mais lui provoque surtout un cancer de la mâchoire pour lequel il subira 32 opérations. Force est de constater, pour celui qui guérit les maux de l'esprit, que ceux du corps peuvent être incurables. La douleur est son lot quotidien. Freud doit porter une prothèse qui le fait tant souffrir qu'il la surnomme le monstre. Le 23 septembre 1939, quelques jours après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la douleur n'est plus supportable. Freud demande à son médecin personnel et ami, Max Schur, d'abréger ses souffrances grâce à des injections de morphine. Sa fille Anna donne son accord. Toujours à ses côtés, celle qui a été sa disciple, son assistante, son infirmière, mais surtout son Antigone, jusqu'à la fin. Freud aura été fidèle à la tragédie grecque.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Freud, nous avons l'immense honneur d'accueillir l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Bonjour, merci d'être avec nous, Elisabeth.
Merci de m'avoir invitée.
Bonjour Elisabeth Roudinesco. Alors, faut-il vous présenter? Vous êtes historienne, psychanalyste et la biographe de Sigmund Freud avec cet ouvrage « Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre » paru aux éditions du Seuil, un héros de tragédie grecque. Est-ce que c'est comme cela que l'on peut résumer le mieux Sigmund Freud?
Oui, il a réinventé les mythes grecs et On peut dire que, quelle que soit l'interprétation qui fait de Sophocle, qui est très imagée, enfin, dans la tragédie de Sophocle, le héros ne désire pas sa mère et ne sait pas qu'il tue son père. C'est le destin aveugle qui l'emmène vers cette destinée. Oui, il a réinventé les grands mythes pour la modernité. Autrement dit, si on compare avec tous les médecins de l'âme de la fin du 19e, quand on lit les textes, ils parlent tous en langage médical, en quelque sorte. Et Freud, à un moment donné, il dit à l'ensemble des névrosés, non mais attendez, vous êtes le roi, vous êtes Édipe. Et vous n'êtes plus un malade simple, qu'on va soigner avec de l'hydrothérapie, qu'on va mettre dans une baignoire, etc. Ça rehausse la position névrotique, ça l'universalise, et ça donne au destin du sujet moderne une sorte de grandeur, en quelque sorte. Alors, évidemment, sa théorie de la sexualité est excessive. À Vienne, au début du siècle, quand on lit les minutes de la société psychanalytique, c'est incroyable. Ils sont obsédés par les causalités sexuelles dans une société de frustration. C'est ça. La psychanalyse est née d'une crise de la famille occidentale. Le mariage arrangé, c'est fini. On va vers la famille moderne, d'une part. Il va porter ça, Freud. Et évidemment, dans une société où les femmes sont dans une frustration, les hommes aussi, comme on l'a vu. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, il faut bien replacer ça dans le contexte. On est obsédé par les causes sexuelles à cette époque.
Pourquoi Freud ? On n'a pas le temps, peut-être, il faudrait peut-être 4 heures pour répondre à ça, mais pourquoi Freud plutôt qu'un autre ? J'imagine qu'à l'époque, il y a d'autres, même parmi ses disciples, des psychanalystes. Pourquoi est-ce qu'on retient Freud ? Pourquoi est-ce qu'il est la star encore ? Il y a une série sur Netflix sur Freud. En quoi il a créé ou synthétisé les choses plus que ses...
Vous savez, il s'est comparé à Copernic et à Darwin.
Oui, ah oui.
Il a appelé ça les blessures narcissiques. C'est une belle histoire. Mais... pourquoi Freud ? C'est une très bonne question. Dans mon livre, je montre que Freud, il y a tout, les t-shirts, c'est une célébrité mondiale. Pourquoi il occupe cette place ? J'ai comparé avec Einstein et Darwin, qui ont eu exactement le même destin. La haine et la rénovation de quelque chose. Je crois que c'est ça qui explique les deux. Darwin, évidemment, change notre représentation de nos origines. On descend du singe, je veux dire comme ça. Einstein change complètement notre représentation de l'univers et Freud change notre représentation de notre intériorité. Bien sûr, l'inconscient existait. Bien sûr, on savait qu'on était déterminé par un inconscient. Mais lui, en quelque sorte, il l'éclaire, il le théorise. Donc, il y a une révolution de l'intime. Il faut le situer de ce côté-là et un mythographe. Et il redonne une ampleur. Donc, j'ai étudié l'antifreudisme depuis ses origines. C'est quelque chose de fou. Il n'y a pas que les antisémites. Et puis alors, c'est récurrent.
Ça revient par vague, en fait.
Et alors, il y a des livres entiers sur sa liaison avec sa belle-sœur, complètement imaginaire. Donc, si vous voulez, le travail d'historien, quand même, c'est de sortir de la géographie. On ne peut pas continuer à écrire qu'il était génial, qu'il n'avait aucun défaut. Enfin, tout ça...
Une critique juste et modérée de Freud. C'est
voilà.
Ça que vous
et puis, d'un autre côté, il faut étudier cet antifreudisme radical qui... Alors, ça n'est plus contre la théorie sexuelle. Ensuite, ça a été... C'est pas une science. N'a jamais prétendu être une science. Et aujourd'hui, on est, après avoir été quand même dans le tout psychisme, il y a eu les excès des psychanalystes qui voyaient tout devenait psychique, n'importe quelle maladie. Aujourd'hui, on est dans le tout biologique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, il faut trouver un équilibre. Tout n'est pas d'origine biologique. Et puis même, à supposer qu'on s'aperçoive que toutes les maladies mentales et psychiques ont une origine génético-biologique. Et alors, il faut bien aussi traiter l'âme, en quelque sorte.
Alors, on va continuer à parler de nos psys de l'histoire, et de Freud en particulier, avec notre invité, l'historienne et psychanalyste de génie, et très reconnue, heureusement, Elisabeth Roudinesco. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Allongez-vous sur le divan, c'est notre thème cet après-midi avec Stéphane dans Historiquement Vôtre. Et on a eu cette idée un peu saugrenue de parler de Freud pour parler de psychanalyse. C'est notre premier personnage du jour, évidemment. Et on a la chance d'en parler avec l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Le titre de la biographie que vous lui avez consacrée, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, au seuil en 2014, est assez explicite. Qu'est-ce que Freud a encore à nous dire de notre temps, justement? Tout à l'heure, vous parliez de contexte. Est-ce que cette pensée freudienne, elle est particulièrement utile aujourd'hui?
D'autant plus utile aujourd'hui que on a abandonné le freudisme dans l'approche des maladies psychiques, quand même. Donc, oui, il a pensé la pulsion de mort. C'est très important. C'est pas seulement l'instinct de mort. C'est quelque chose qui est fondamental au cœur de l'humanité. La description des malaises de la société, ce Freud-là est important aussi. La crise sociale. Et puis, tout de même, des sociétés où il n'y a pas Freud, parce qu'il y a...
Il y en a,
bien entendu. La psychanalyse et Freud ont été éliminés de tous les pays totalitaires, dictatoriaux, de tous les pays islamistes. Il est encore considéré comme un Satan. C'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pu se développer que dans les pays démocratiques, où il y a la liberté d'association, d'abord parce qu'il y a des associations psychanalytiques, indépendamment des psychanalystes qui ont pu collaborer avec les dictatures, c'est pas de ça que je parle. Ça n'a pu se développer parce que pour parler librement, il faut encore qu'il y ait un monde libre. Cette idée de la liberté, de se comprendre, et de comprendre quoi? Qu'on est aussi déterminé par nos pulsions, par notre inconscient, etc. Donc, c'est une théorie de la liberté, fort intéressante, qui est aussi quelque chose de très important, la maîtrise des pulsions.
Il y a quelque chose de libre arbitre de ce fait, plutôt que dans les théocraties où justement on est conditionné par les règles religieuses.
Ah oui, c'est sûr. C'est un théoricien de l'individualisme, je dirais, de la sortie de la religion. Freud est juif au sens de la judéité, il l'a toujours revendiqué contre les antisémites, mais il se définissait lui-même comme haïssant les religions. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être aussi anticlérical, mais attention, on est dans une époque quand même où il y a un retour du fanatisme religieux partout, où il y a même des excès d'athéisme fou, où l'être humain est un peu limité aux interventions sur le corps, où on essaye de se transformer par d'autres moyens que l'exploration de soi-même. Et puis alors, il y a l'immense domaine des drogues, c'est-à-dire de la chimie pour soigner les maladies psychiques. J'y suis très favorable, parce que Freud aussi, ça aide...
Ça aide à libérer.
On ne peut pas laisser les gens comme ils étaient du temps de Freud. Oui. Je vous rappelle, notamment pour les maladies mentales et les psychotiques, c'était horrible. Il y avait l'asile. Donc, les médicaments psychotropes à partir de 1945 ont vidé les asiles. Mais il faut les deux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que pour une approche à peu près équilibrée de ce qu'est l'être humain, il faut une approche biologique, une approche environnementale et une approche psychique. Il faut les trois. Aujourd'hui, on privilégie les approches biologico-chimiques et les approches sociologiques, et moins la question psychique. Donc, au contraire, ça va redevenir moderne. Mais il faut aussi que les psychanalystes dans le monde entier fassent un effort, parce qu'ils ont été très dogmatiques, tout à fait insupportables et très réactionnaires.
Mais est-ce qu'ils sont aujourd'hui freudiens? Parce que vous dressez dans votre livre la liste de toutes les âneries qu'on a pu raconter sur Freud. Vous le racontiez il y a un instant sur le fait qu'il avait une relation avec sa belle-sœur. On a dit qu'il était cocaïnomane, qu'il était raciste. J'ai tout lu sur Freud.
Attention, il a bien consommé de la cocaïne.
Oui.
Et sur sa belle-sœur, enfin, j'ai établi qu'il y avait un doute possible. Le 8 août 1898.
Ah oui, c'est précis.
Dans un voyage, oui, parce que là, on a. Mais ce qui a été raconté, c'est une liaison à vie.
Oui, oui, bien sûr.
Il l'aurait engrossé, il l'aurait fait pratiquer l'avortement. Tout ça est ridicule.
Sur quoi, vous, qui connaissez bien Freud, sur quel point on peut penser qu'il s'est fourvoyé, qu'il s'est un peu trompé, qu'il n'est plus à jour?
C'est compliqué de dire qu'il s'est fourvoyé. C'est pas le terme. Mais les excès de Freud ont été que le tout sexuel. Voilà. Ça, il y voyait partout. Au point d'ailleurs que ça a fini par être caricatural. Mmh. Au point lui-même d'ailleurs qu'à un moment il a dit attention, je fume le cigare, c'est pas un phallus. Donc il rectifiait ça. On peut dire aussi que il a fait un mouvement politique avec la psychanalyse, ce qui était nécessaire. Il fallait conquérir le monde, c'est des associations, c'est un mouvement messianique absolument passionnant. Donc, il y a des dogmes. Donc, à un moment donné, il est devenu très dogmatique. Mais, il a été contesté à l'intérieur même de son mouvement. Donc, quand vous dites il y a beaucoup de courants, tous les psychanalystes, quels que soient les courants, sont freudiens. Se réclame de Freud. Mmh. Ensuite, il y a eu Mélanie Klein qui a joué un très grand rôle pour la découverte de l'analyse d'enfants et qui a contredit toutes les théories de Freud. Elle les a contredit dans le respect, mais elle les a contredit. Autrement dit, l'apport, c'est que Freud pensait qu'on pouvait pas analyser les enfants directement parce que l'inconscient était trop fragile, qu'il fallait le faire à travers les parents. Mmh. Il était très famille de ce côté-là. Et Mélanie Klein a dit pas du tout, et elle a inventé tout le dispositif moderne que vous connaissez, la pâte à modeler, l'idée qu'on peut traiter les enfants par autre chose que la parole, etc. Et puis, le continent des maladies mentales et des psychoses a été abordé par les disciples de Freud, ça n'intéressait pas. Freud, c'était, bien sûr, il en avait, mais ce qui l'intéressait, c'était le quotidien de la névrose. Voilà. Alors ensuite, tous les courants se sont développés, et notamment à partir des années 60, on a abandonné au fond le système édipien pour ce qu'on appelle le système narcissique. On s'est aperçu que dans les sociétés démocratiques évoluées, les troubles qu'il y avait à Vienne, c'était plus du tout les mêmes. La liberté sexuelle existait, la frustration existait beaucoup moins, et donc on a centré à partir des années 60 sur Narcisse, c'est-à-dire les pathologies entre soi et soi. Beaucoup plus que les frustrations sociales. Ce qui fait que dans la psychanalyse aujourd'hui, il y a des tas de courants. Et puis, bien sûr, en France, il y a eu Lacan qui a rénové la théorie. Donc, c'est vraiment une discipline qui existe dans le monde entier avec plein de courants. Mais elle se réclame,
oui,
se réclame.
On ne renie jamais Freud quand on est psychanalyste. On construit à partir.
C'est ça au fond les penseurs importants. Aujourd'hui, l'évolutionnisme darwinien n'est plus exactement Darwin, mais on se réfère toujours à Darwin. Mmh. Donc oui, bien sûr.
Et puis les conséquences de la pandémie Covid-19. Va remplir les cabinets.
C'est possible, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce qui concerne les fous, entre guillemets, il l'a très bien montré Emmanuel Carrère en faisant son enquête, mais on le sait, à Sainte-Anne, quand le monde est fou, les fous le sont moins. Puisque le monde correspond, vous savez, pendant la période des guerres, évidemment, si le monde est en guerre, ça répond au fond à l'état de folie psychique. Et puis, pour l'anecdote aussi, tous les phobiques des microbes, cette fois-ci, qui se lavaient les mains tout le temps par peur d'attraper un microbe, alors là, un virus, là, pour eux, c'est le grand bonheur, parce qu'ils disent, je l'avais bien dit. Hein? Donc, en revanche, en effet, les névroses d'angoisse, oui, on les a tous. Qui n'a pas la peur d'attraper le Covid?
Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Elisabeth Rodinesco. C'est vraiment un honneur et une joie de vous accueillir dans les studios d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre biographie, Sigmund Freud, En son temps et dans le nôtre, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, ça pourrait s'appeler hystériquement vôtre.
C'est comme ça que vous lancez Clémentine Portier-Kettenbach?
Non, comme on parle de psychanalyse, on est dans le thème du jour, non?
On est dans le thème.
Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle donne chaque jour de la voix pour nous raconter des histoires dont elle seule a le secret. Bon, après, quand on vérifie, on s'aperçoit qu'elle a raison.
Ah oui, bien sûr. Non.
Et aujourd'hui, vous nous réservez, elle nous l'a dit, une histoire qui va nous laisser sans voix, celle d'un homme qui entendait des voix, justement.
Un pauvre gars, qui est né à Angoulême au XVIe siècle, une petite ville de quelques milliers d'habitants.
Mais vous le dites comme si c'était une tare de naître à Angoulême.
J'adore cette ville, en plus,
Alors, c'est une ville de moines, une ville de prêtres, avec sa cathédrale Saint-Pierre, ses chapelles, ses 9 paroisses, ses couvents de cordeliers et de jacobins. C'est un farouche bastion catholique. au milieu d'une campagne entièrement huguenote et à deux reprises, en 1562 et 1568, la ville a été saccagée par des bandes hystériques de protestants, des ivres de sang. Je plaisante bien sûr. Alors c'est ici.
Vous n'allez pas nous ranimer les guerres de religion quand même.
On n'a pas besoin de ça.
Elles n'ont jamais été éteintes, pensez-vous. Alors c'est ici donc que naît en 1577 ou 78 le jeune homme qui nous intéresse et il se prénomme Jean-François. Alors aujourd'hui, on dirait que Jean-François, c'est un cas social. Son père était un petit notable, greffier du maire de la ville, mais il a trempé dans un projet d'assassinat du gouverneur de la ville, le duc d'Épernon, qu'il soupçonnait de vouloir livrer Angoulême aux protestants. Et à partir de ce moment-là, il va connaître de grosses difficultés financières qui vont le conduire à la misère et au déshonneur. Donc rapidement, il sombre dans l'alcool, la débauche, la violence, il est brutal, il est souvent ivre, et bientôt, il ne vit plus que d'aumône. Donc vous voyez, le petit Jean-François, il naît ici à l'ombre du donjon des Lusignans, dans une unique pièce, et il travaille dès l'âge de 11 ans comme valet. Puis il va apprendre un peu des rudiments de l'emploi de clerc de notaire. Il a un frère qui est aussi une espèce de délinquant, Geoffroy, violent comme son père. Alors venons-en à sa mère maintenant. Elle, c'est une bigote qui a deux frères qui sont chanoines et elle confie à ses deux frères qui sont très très intransigeants, intolérants sur le plan religieux, de l'éducation de Jean-François. Donc Jean-François va être élevé dans la haine viscérale des calvinistes. Alors inutile de vous dire que quand Henri IV devient roi de France, à Angoulême, c'est vraiment le désarroi et l'horreur absolue. Henri IV passe pour un judas, un menteur, un paillard, un faux converti. Et donc pour Jean-François, qui est une âme simple, ce discours furieux s'imprime de façon indélébile. Et progressivement, ce garçon va basculer dans une espèce de mysticisme. Il souffre de migraines, de fièvre, il entend des voix, il a des visions. Il est obsédé par des hallucinations. Il voit du feu, il sent des odeurs de soufre, il aperçoit des hosties qui flottent dans l'air. Bref, écoutez, là ça va mal. Un genre d'illumineux fou de Dieu. Il voudrait rentrer dans un ordre religieux, il cherche le plus sévère de préférence, mais chez les feuillants, chez les jésuites, on ne veut pas de lui parce qu'on sent que ce gars est quand même un petit peu illuminé, il n'est pas très stable. Et son esprit sombre doucement dans la folie, il est convaincu que Dieu lui parle et lui assigne une mission.
Jeanne d'Arc aussi. Hein.
Et quelle mission? Bah bien sûr.
Bah, oui, c'est quoi la mission? D'aller tuer
Henri IV, naturellement, puisque le Jean-François dont je vous parle,
il s'appelle Ravaillac.
C'est Jean-François Ravaillac, natif d'Angoulême.
C'était un bon suspense.
Alors, en tout cas, après sa mort, que l'on connaît, il est par un arrêté du Parlement. Ses parents sont forcés à l'exil sous peine de mort. Ses biens sont saisis. Sa maison à Angoulême est détruite, avec interdiction d'utiliser le terrain pour bâtir. Ses frères et sœurs sont contraints à changer de nom sous peine de mort. Son frère Geoffroy prendra le nom de Montalc, mais comme il n'était pas marié, qu'il n'a pas eu de descendance, avec lui s'est éteint le nom de Ravaillac. Il n'y a plus de Ravaillac. Alors, il y a 10 ans, à l'occasion des 400 ans de la mort d'Henri IV, un magazine a demandé à un psychologue criminologue ce qu'il adviendrait de Jean-François de nos jours. Et il a répondu qu'un diagnostic moderne établirait chez Jean-François Ravaillac une schizophrénie paranoïde. Le diagnostic de sa pathologie amènerait à conclure en faveur d'une irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. Il serait hospitalisé d'office dans une unité psychiatrique, sans doute au centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, pour pouvoir être près de son papa et sa maman. Évidemment, ses proches ne seraient pas bannis du pays, leur nom ne serait pas interdit et leur maison natale ne serait pas détruite.
Il était schizophrène, donc il avait plusieurs personnalités. Bah, il a été écartelé, un peu éparpillé façon
mais
puzzle.
Il est horrible. Il est horrible.
Vous avez
les pires sévices.
Regardez, il jubile. Éparpillé façon Paul Ravaillac,
Ça, j'ai jamais compris, écartelé. C'est-à-dire que si on met des chevaux vraiment, les membres vont se déchirer
Bien sûr,
on se disloque. Et après, on mettait de la poix et du plomb. Oui, à l'origine, vous êtes vivant. Vous savez pourquoi est mort Henri IV? En fait, il était rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Il y avait une charrette à foin qui était rentrée dans une charrette de tonneaux de vin. Et donc Ravaillac en a profité, il est monté sur le marchepied, il a donné deux coups de couteau au roi, et le roi est mort. Bah, comme quoi, les embouteillages de Paris, ça faisait déjà des ravages.
Je connaissais pas ce côté sadique chez Stéphane.
Vous connaissiez pas le côté sadique de Stéphane?
Non.
Il le revendique
pourtant. Peut-être avec l'âge, il devient un peu un pervers pépère. Regardez ça. Ça va jaser dans les chaumières.
Suivez-nous sur Europe1.fr en vidéo et regardez ce sourire perfide, ce rire terrifiant. C'est terrifiant. Je m'enlève.
J'ai peur.
J'ai de plus en plus peur. Je m'éloigne, je me rapproche de vous.
Venez. Faisons corps face à ce démon.
On va vous écarteler.
Merci Clémentine. Vous restez avec nous. Écoutez, Stéphane, Stéphane fait craquer ses doigts. Signe indubitable que le quiz approche, impitoyable face à face, entre deux rutilantes cervelles. Est-ce que vous êtes prêt, Stéphane ?
J'ai mis exprès une cravate.
Je ne vois pas en quoi le fait de porter une cravate permettra d'être meilleur dans le quiz, mais si ça peut vous donner du courage,
c'est tant mieux. Si on parle des croates, ça va.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Les bookmakers n'y comprennent plus rien. Depuis quelque temps, Stéphane Bern, qui les avait pris l'habitude de surnommer la voiture balai du quiz, reprend du poil de la bête. À l'inverse, Clémentine, subissant de plus en plus de revers, commence à perdre son sang-froid, par exemple en m'insultant.
Le piège pervers, mais
particulièrement vicieuse. Oui, mais vous les déjouez avec tellement de maestra.
Maestria, maestra, l'autre.
Oui, maestria avec autre. Oui.
Surtout quand on joue avec un analphabète pareil, on a du mérite. Hein.
L'analphabète, qui ne l'oubliez pas, peut changer les règles du quiz à tout moment en cours de quiz, vous propose de jouer à Burn to be Alive. Alors Stéphane, la première question est pour vous et je vous l'annonce, elle est intéressante. Depuis 1405...
Ça nous changera un peu.
Moins un point. Elle commence à moins un point. Depuis 1405 et encore aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame de Lausanne a en son sein un guet actif. Attention, un guet G-U-E-T. De 22h à 2h du matin, et il monte en haut du clocher et donne l'heure. Vrai ou faux ? Y a-t-il un guet actif dans l'église de Lausanne ?
C'est un être humain
qui monte pour annoncer, pour glapir comme un muezzin, pour dire il est 10h, moins le quart.
Parce que ça peut être un automate.
Non, je ne vous parle pas d'automate, je vous parle d'un guet qui est très actif et qui est vivant,
non,
qui est un homme.
Non. Ne jouez pas sur les mots, on voit bien sur quel terrain glissant voulez nous entraîner.
C'est mal me connaître, c'est pas moi qui suis fan du supplice de la roue, hein. Excusez-moi.
Ça c'est vrai. Hein.
Non. Hors antenne, non, Stéphane, je vous ai confié son adoration pour certaines pratiques.
Je trouve que, voilà, ça avait son utilité sociale à l'époque. Je vous assure, il n'y avait pas de télévision, hein. On avait besoin de spectacle.
Revenons à notre guet, Stéphane.
Alors, notre guet actif... mais il le crie à qui ?
Qui veut l'entendre ?
Aux citoyens de la ville.
Mais les gens
aux
à Lausanne.
Aux habitants de Lausanne.
Il n'y a pas besoin de couvre-feu.
Non, mais braves gens, il est une heure.
Tout le monde dort à 6 heures.
Moi, je pense qu'il y a le piège.
Bah, c'est l'heure de dîner, il est 18 heures.
Il doit y avoir une tradition de ce genre, une fois par an, où un gars en costume de Suisse monte au clocher en disant coucou, me revoilou. Mais je ne pense pas que ce soit tous les jours.
Non, pas tous les jours. Écoutez, non. Je dirais non. Je sais qu'on va se planter, mais on dit non.
16 minutes de réflexion. La réponse est tombée, non.
Vous avez perdu.
Tout ça pour ça. Alors, le guet actif existe, Stéphane.
Oui.
Avant, il servait à surveiller l'arrivée d'éventuels incendies jusqu'à 1950. Il servait aussi à actionner manuellement les cloches. Depuis, il ne sert qu'à crier l'heure, leur pile, de 22h à 2h. Il y a d'autres guets actifs en Europe, à Cracovie en Pologne, à Istad en Suède, à Ripon en Grande-Bretagne. Voilà, grâce à moi, vous avez la localisation précise des derniers guets actifs d'Europe.
À quoi ça sert ? Je comprends pas.
C'est une... À quoi ça sert ?
C'est une tradition.
Et une tradition,
ça sert à quoi ? Ils sont payés en heure sup.
Je suis gay actif, réveilleur de mes concitoyens.
C'est un CV, ça claque.
N'importe quoi. Ça,
question numéro...
Surtout en Pologne. T'affiches que t'es gay actif en Pologne.
Faut pas trop le crier sur les toits.
Oui, voilà,
question numéro 2.
La cathédrale.
Numéro 2. Clémentine, s'il vous plaît, un peu de sérieux.
Bon,
Napoléon. Une question sur Napoléon pour Clémentine.
Elle en descend.
Chacun son domaine.
Elle en descend. Napoléon avait une polytélie. Comprenez qu'il avait trois tétons. Oui. Vrai ou faux ?
Ah bon ?
C'est pour ça qu'il avait toujours la main dans le...
Mais pas du tout. Alors là, il avait trois... Oui, enfin, c'est une... La polytélie, c'est un bien beau mot.
Oui, pour une chose très vilaine.
Écoutez, j'ignorais ce détail. Je ne me souviens pas l'avoir vu, donc je réponds faux.
Vous avez... gagné !
Elle est imprenable, oui, monsieur Napoléon. Faux, Napoléon n'avait pas trois mamelons, il avait un mamelouk. Un mamelouk ? C'est la réponse, hein. Un mamelouk.
Ali et Saint-Denis.
C'est un soldat.
Non, mais vous pouvez pas faire ce jeu de mots. Non, mais c'est pas autorisé.
C'est un mamelon à mamelouk. C'est une information historique. Mais enfin, Stéphane, on est là pour se cultiver.
Non, pour s'amuser. Alors, aussi.
Un mamelouk, c'est un soldat de l'infanterie légère égyptienne. C'est une sorte d'assistant personnel. Il a été à ses côtés de 1799 à 1814. C'est un cadeau du cheikh El Bekri, qui n'a aucun lien de parenté avec Jean-Pierre Bekri, qu'on embrasse, et qui nous manque. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Alors, une question sur Napoléon pour Clémence, une question sur les papes pour Stéphane. Je dis, mais où va le quiz? Le dernier pape nommé Jean était Jean 23, mais il n'y en a eu que 21. Vrai ou faux?
Mais pourquoi?
Je pense. J'ai entendu. Je pense. Oui, je dirais que c'est vrai. J'ai entendu une histoire où il y avait justement. On avait sauté un numéro, mais. Oui. Allez, je dirais oui. Vrai.
Vous avez. Gagné!
Il se jette à l'eau. Bénite. Et il a bien fait. Il a bien fait. Effectivement, vrai. Il y a eu quelques soucis de comptage, là. On ne trouve plus aucune trace de Jean 20. Et il a bien dû exister entre Jean 19 et Jean 21, mais il n'y a aucune trace réelle de son existence. Quant à Jean 16, c'est un antipape. Comprenez, un pape qui a été pape, mais pour une raison ou pour une autre, n'est plus reconnu comme tel par l'Église catholique. Personnellement, ça pique ma curiosité. Question numéro 4 pour vous, Clémence. Question pour celle qui a écrit « Les secrets de Paris ». La rue Émile Richard, dans le 14e arrondissement, a une particularité. Laquelle?
Ah, je suis censée deviner toute seule.
C'est une question, comme vous avez rédigé cet ouvrage, c'est une question ouverte.
Oui, mais
plus
la
difficile
rue,
que les autres.
La rue Émile Richard, ça ne me dit rien du tout. Qui est Émile Richard? Il y a un certain nombre de rues qui portent le nom de héros de la vie quotidienne. Je sais qu'il y a. Est-ce que c'est pas cette rue dont c'est un policier qui s'est jeté à l'eau pour sauver une dame qui se suicidait et c'est lui qui est mort et on a donné son nom à une rue. Je sais qu'il y a un certain nombre de rues comme ça, des héros complètement inconnus. Mais la rue Émile Richard, je dois dire, non, ça ne me dit rien. Vous savez, il y a quelques milliers de rues parisiennes, je ne connais pas tous leurs secrets.
Mais moi, la question, c'est pas tellement sur le nom, c'est la question.
Quelle est
sa particularité?
Quelle est la particularité de cette rue?
Dans le 14e.
Émile Richard ou autre chose. C'est la rue Émile Richard, mais elle a une particularité.
Elle a peut-être qu'un seul numéro ou
il
y a pas de numéro.
C'est quelque chose comme ça.
Là où il y a pas de numéro, c'est devant les Invalides là. Enfin, tu vois, la rue centrale, l'avenue centrale, la porte pas de numéro.
Sauf que rue Émile Richard, est-ce que ça pourrait Invalides, c'est rue de Grenelle.
Est-ce que ça pourrait pas être est-ce que ça peut pas être devant les catacombes là où les propylées là le Doubs. Qu'est-ce que ça peut être?
Vous brûlez.
C'est dans Ferrochaux, non?
Ça doit avoir un rapport avec les catacombes et c'est peut-être une rue des catacombes.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, mais vous étiez sur la bonne voie. C'est une rue où personne de vivant n'y habite, puisqu'elle coupe en deux le cimetière Montparnasse.
Ah oui.
La rue fait 382 mètres et pas de vivant dans cette rue.
Ah c'est pas mal.
Ah
c'est
oui,
très bonne
c'est une
question.
Belle question, bravo. Ouais. Ah,
et,
oui.
et Stéphane, comme vous me flattez et aussi parce que vous avez vraiment gagné, vous avez gagné le quiz. Bravo Stéphane, une belle victoire. Net et précis.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, plus qu'une émission d'histoire rieuse, une véritable psychothérapie quotidienne. Et contrairement aux psy, nous Stéphane, on est gratuit.
Ah oui, absolument. Oui. Et comme eux, on espère vous faire du bien. En parlant justement des grands psys de l'histoire aujourd'hui. Après Freud, je vais vous raconter le destin d'une des figures de la psychanalyse française, Françoise Dolto, qui nous a évidemment donné la méthode Dolto.
Et Carlos, ne l'oublions pas Stéphane.
Ah oui, c'est vrai. Mais ça soigne d'autres choses. Hein. De votre côté, Mathieu, vous évoquerez une figure plus récente de la psychanalyse.
Oui, plus récente et, avouons-le aussi, moins diplômée. Marc-Olivier Fogiel, diplômé de la Patrick Sabatier School of Psychology, qui a redonné vie avec Maestria à l'émission Le Divan d'Henri Chapier, parmi ses invités Fabrice Lucchini, Karl Lagerfeld, vous aussi Stéphane, même si vous aviez ensuite exigé que certains passages soient coupés au montage, notamment quand vous demandiez à Marco...
Sex addict, c'est vraiment une maladie?
Non, mais c'était quand même intéressant cette émission.
Alors sans oublier nos brillants chroniqueurs, qui n'ont pas besoin de s'allonger sur le divan, David Castel-Lopez qui nous raconte les origines. Et là, aujourd'hui, donc, vous me l'avez dit, c'est la nourriture, enfin, tous surgelés, en fait.
Les surgelés, c'est une grosse révolution dans la nourriture, et je vous dirai d'où ça vient.
Et attention, pas le congelé. Non. Là, on était parti sur une fausse piste.
On est d'accord.
Ça n'a pas rien à voir.
Mon plat surgelé, je le mets quand même dans mon congélateur.
Oui.
Et puis, alors lui, il sort tout, il n'aime pas le congélateur parce que tout est frais. Et là, en l'occurrence, Olivier Boulle, on va parler des cuisses de grenouille.
Oui, alors on en trouve évidemment des surgelées.
Mais elles sont
grand-mère m'a tourné chez Georges Blanc. Enfin, c'est un ami qui est allé qui m'a dit.
La cuisse de grenouille fraîche, c'est évidemment incomparable. Ouais. Le...
Ça vous dégoûte pas, vous, de manger des grenouilles?
Pas du tout, mais j'adore ça.
Ça vous dégoûte,
c'est savoir.
Ah, vous n'êtes pas très cuisse de grenouille?
Je sais pas, je crois que j'en ai pas mangé de ma vie.
Vous n'avez jamais mangé cuisse de grenouille?
Ah,
l'ail, là?
Allez, il va falloir qu'on répare cette.
Justement, il en a préparé.
Ouais, et puis vous nous ferez le chant de la grenouille tout à l'heure.
Le chant de la grenouille, ça sera certainement un grand moment. Le mot de la fin, en tout cas avant le chant de la grenouille, vous nous donnerez le mot de la fin. Stéphane, chaque jour, l'histoire d'une expression. Et justement, elle est en rapport,
avec le plat. Puisqu'on parle de cuisse de grenouille, pourquoi est-ce que les Anglais nous appellent les froggies?
Parce qu'on mange des grenouilles, précisément.
Si c'était que ça, ça n'aurait aucun intérêt d'attendre la fin de l'émission.
Évidemment. Or, il y a un intérêt immense à attendre la fin de l'émission. On vous fait confiance, Stéphane.
D'autant que j'aurai une petite révélation aussi sur ce sujet qui va embarrasser nos amis anglais.
Ah, mais peut-être vous allez vous fighter avec Stéphane alors en fin d'émission. Vous ne serez pas d'accord sur l'origine. Restez avec nous. Mais d'abord, longtemps, je me suis demandé comment j'avais pu être un enfant si odieux, persuadé que tout m'était dû. Découvrons la responsable de tout ce bazar pour une génération d'enfants rois. Stéphane Bern nous raconte Françoise Dolto.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Stéphane, vous mettez à présent Françoise Dolto sur le divan pour nous plonger dans la vie de celle qui a psychanalysé un autre public, ceux que Freud appelait les pervers polymorphes. J'ai nommé les enfants.
Je suis Madame Dolto, je suis psychanalyste et je dis la vérité de la vie aux enfants. Voilà comment Françoise Dolto se présente lors d'un premier entretien avec un enfant de 3 ans. Le message est clair. Alors que Freud n'a jamais fait la psychanalyse directe d'un enfant, celle du petit Hans était issue d'entretiens avec son père, Françoise Dolto démocratise le dialogue avec les petits et même les tout-petits. Elle transforme ainsi le statut de l'enfant dans la société au XXe siècle. Car avant Dolto, l'enfant est considéré comme un être inachevé, un tube digestif qu'il faut dresser. L'éducation se fait au martinet. Dans les hôpitaux, les bébés sont opérés sans anesthésie, car de toute façon, un bébé, ça pleure. Je préconise, dit-elle, l'abandon de la médecine que j'appelle vétérinaire, telle que je la vois pratiquée quand il s'agit d'enfants. Je préconise l'abandon du dressage au cours du premier âge, en lui substituant le respect dû à un être humain réceptif du langage. Ce respect, Françoise Dolto en a elle-même manqué dans son enfance. Françoise Marette naît dans une famille bourgeoise, catholique et très stricte, en 1908. Un beau jour, sa nounou irlandaise est brutalement renvoyée. Il faut dire que cette dernière arrondit ses fins de mois au bordel. Outre la prostitution, la mère Marette lui reproche d'emmener la petite Françoise avec elle dans une fumerie d'opium et de lui voler ses bijoux. De bonnes raisons pour se débarrasser de la nounou. Mais personne n'explique la situation à Françoise, qui tombe gravement malade à l'âge de 8 mois. Cet événement est fondateur dans son parcours, d'abord parce qu'elle prend conscience de l'importance de dire la vérité aux enfants. Ensuite, parce qu'elle réalise que sa mère, qui l'a tenue contre elle toute une nuit, l'a sauvée. Mais personne ne peut sauver Jacqueline, la sœur aînée de Françoise, qui meurt d'un cancer à 18 ans. Une disparition qui fait sombrer sa mère dans la folie. Françoise passe alors son adolescence et son entrée dans l'âge adulte sous les injures. « T'es une putain !» lui martèle sa mère. Quand elle passe son bac, elle ne reçoit aucun encouragement. « C'est comme si j'avais dit que j'allais au bordel » dira-t-elle. On comprend son besoin de débuter une psychanalyse en parallèle de ses études de médecine. Elle a 25 ans. Si à l'époque une psychanalyse dure 6 mois en moyenne, Françoise insiste pour que la sienne dure 3 ans. En 1938, elle devient membre de la Société psychanalytique de Paris et soutient sa thèse de médecine l'année suivante. Le sujet ? Psychanalyse et pédiatrie. Un jour, elle découvre sur l'exemplaire qu'elle a laissé sur la table de la cuisine de la nourriture pleine de gras. « J'apporterai un autre exemplaire, dit Françoise, à la responsable de cet acte, sa mère. C'est pas la peine. C'est tout ce que ça mérite, c'est dégoûtant de faire une thèse de psychanalyse. Freud était un vilain monsieur, lui répond-elle. Aussi vilain que soit le monsieur, Françoise Dolto en fait son maître à penser. Elle reçoit ses premiers patients à l'hôpital Trousseau, puis à 33 ans, rencontre Boris Dolto. Il se marie et emménage au 260 rue Saint-Jacques où Françoise Dolto accueillera des milliers de parents désemparés. Elle devient elle-même mère de 3 enfants, Jean, Chrysostome, Grégoire et Catherine. Si elle ne leur fait pas de psychanalyse, moi, quand je ne suis pas dans mon bureau, je suis comme la concierge du coin, je ne suis pas psychanalyste, dit-elle à Catherine. Elle applique sur eux ses grandes idées, donc elle les laisse faire leurs bêtises et surtout, elle leur dit toute la vérité. Pas de « tu comprendras plus tard » ou « tu parleras quand tu seras grand ». L'enfant a le droit de savoir, l'enfant doit savoir, quel que soit le sujet, la mort, la maladie, le divorce. Prenons l'exemple de parents surpris par leur enfant en plein zébat. Papa et maman font du sport. Non, il faut expliquer qu'ils sont en train de commettre un acte sexuel et que c'est au cours d'un tel acte que naissent les enfants. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants, ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant, chantera son fils Jean Chrysostome, que nous connaissons évidemment tous sous son pseudo et ses chemises à fleurs de Carlos. Une des relations mythiques de Dolto, bien que platonique, est celle avec le psychanalyste Jacques Lacan. Lui, c'est la théorie, elle, c'est la pratique. Ni l'un ni l'autre ne plaisent à l'Association psychanalytique internationale qui les exclut. En 1964, Lacan fonde l'école freudienne de Paris. Dolto se consacre, elle, à ses consultations et à ses ouvrages comme « Le cas Dominique » dans lequel on suit la cure miraculeuse d'un ado de 14 ans. Mais ce qui l'a fait connaître du grand public, c'est son passage dans l'émission « Le temps de vivre » de Jacques Pradel sur France Inter. Entre 1976 et 1978, sa chronique « Lorsque l'enfant paraît » connaît un succès fou. 6 à 10 minutes pour rendre un peu de bon sens dans la relation parent-enfant, explique-t-elle. Dans son cabinet rue Saint-Jacques, derrière son micro, sous ses lunettes qui lui mangent la moitié du visage, Françoise Dolto répond aux questions des auditeurs. Elle vient ainsi en aide aux parents qui, après mai 68, veulent élever leurs enfants différemment. Car si elle tient le même discours depuis les années 40, c'est après mai 68 qu'on l'entend enfin. Contre la scolarisation précoce, Françoise Dolto pense qu'un enfant doit connaître son histoire avant d'intégrer le système éducatif, c'est-à-dire son nom, ses parents, son corps, et être préparé à la séparation. C'est pour cela qu'elle crée les Maisons Vertes en 1979 qui vont fleurir partout en France et dans le monde. Pour favoriser les échanges intrafamiliaux, ces lieux accueillent les parents et leurs tout-petits jusqu'à 3 ans. Car tout se joue très tôt pour Dolto. Dès la vie intra-utérine même, c'est pourquoi elle conseille aux mères de parler à leur fœtus. Une pratique insolite qui amuse beaucoup. J'étais un peu la zinzin de service, dira-t-elle. Jusqu'à ce que les neurosciences prouvent aujourd'hui que les fœtus réagissent au stress extérieur. Des détracteurs, Dolto en a toujours. Le problème de la vulgarisation, c'est que ça a amené une simplification et une déformation de sa pensée. On lui reproche le phénomène de l'enfant roi. Pourtant, Françoise Dolto préconise les interdits et dit bien que l'enfant doit être périphérique par rapport au couple parental. C'est un comble pour elle qui, comme Freud, a mis la parole au cœur de sa démarche, qu'on lui fasse dire ce qu'elle n'a jamais dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Françoise Dolto et remettre certaines pendules à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui apparaît dans le récit que Stéphane vient de nous donner, sa fille Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Dolto.
Bonjour Catherine.
On va parler de votre maman dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Dans une même après-midi, Stéphane Bern réussit à psychanalyser Freud et Françoise Dolto. Quel talent ! Quel talent, Stéphane ! On en parle avec la fille de Françoise Dolto, Catherine Dolto.
La fille de Boris et Françoise.
La fille de Boris,
bien
sûr. Boris, évidemment.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'ils sont mis à deux. Mais dans ces scènes, ils ne faisaient pas du sport, d'ailleurs. Ils sont mis à deux pour vous créer.
Non, mais elle y tenait beaucoup.
Oui. Catherine Dolto, vous êtes psychothérapeute et auteure.
Je suis apto-psychothérapeute. Je fais de l'aptonomie, ce qui est la science de l'affectivité. Et justement, je passe beaucoup de temps de ma vie à mettre en relation les enfants avec les parents avant la naissance.
Et vous avez publié un roman graphique, L'onde Dolto, en 2 volumes sur les années radio
oui,
de
c'est
François
pas moi
Dolto.
Qui l'ai publié. Et c'est une idée du seuil.
Oui,
et
mais
de
c'est
Delcourt.
Bien. C'est
oui,
bien.
Je les ai beaucoup aidés, mais c'est trop d'honneur de dire que c'est moi qui le publie.
Non, par contre,
mais c'est
vous dirigez la série de livres chez Gallimard Jeunesse qui aborde tous les sujets. Le dernier, c'est confiné, déconfiné.
Ah, oui,
c'est utile. Quand vous entendez parler de votre mère, comme je viens de le faire, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous ramène à des souvenirs d'enfance, des souvenirs de vie, ou plutôt à ces idées qu'elle vous a transmises?
Mais comme dans la vie, elle était comme dans ses livres, pour moi, c'est un tout. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai eus, donc parler d'eux, c'est toujours une joie. Je les aime beaucoup, et je leur dois beaucoup, et donc j'aime bien entendre parler d'elles. Ça me gêne pas du tout. Et donc, c'est que des bons souvenirs. J'ai pas de mauvais souvenirs. Il y a eu des engueulades, il y a eu des fâcheries, on était punis, des trucs comme ça. Mais jamais de mauvais souvenirs. Et par exemple, elle nous disait cette chose formidable, dit « Si vous n'étiez pas mes enfants, je serais très honorée d'être votre amie ». Formidable d'entendre ça de sa mère.
à la fin du récit, vous disiez quelque chose de très intéressant, parce qu'on tombe souvent dans le panneau des gens qui parlent de Dolto, oui. de la méthode Dolto sans l'avoir lu, et qui disent, par exemple, l'enfant roi, c'est François
Dolto.
Remettons les pendules à l'heure là-dessus.
Mais de toute façon, il est en train de se passer une chose extraordinaire. Il y a une diabolisation de cette femme entre les réseaux sociaux, des gens qui n'ont pas tout à fait bien fait leur travail, des collègues qui ont eu peur de la défendre, et on arrive à lui faire dire totalement le contraire. Enfin, dire qu'elle était pro-pédophile, alors que, par exemple, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit l'enfant est désirant, consciemment et inconsciemment, et il est potentiellement séducteur. Et trois pages après, ou trois pages avant, elle dit toujours interdit de l'inceste, interdit de la pédophilie. Elle est d'une clarté extraordinaire. C'est assez triste, ça, parce que, franchement, elle ne méritait pas ça, parce que c'est une femme digne et qui a toujours été au service des enfants. À lui faire croire qu'elle pouvait défendre les pédophiles, c'est juste fou, quoi. Mais c'est l'époque.
Cela dit, elle a commis, je le racontais, une révolution incroyable.
Oui.
C'est faire passer l'enfant du tube digestif.
Oui.
Il était intéressant à partir de 3 ans. Au contraire. Mais ça, c'est une vraie révolution que de miser sur l'intelligence de l'enfant dès son plus jeune âge.
Absolument. Et moi, je suis encore bluffée. Moi qui ai été élevée par elle, qui travaille beaucoup avec des enfants, je suis encore souvent bluffée. Je me dis, ça, j'aurais pas cru. C'est très impressionnant. Alors, elle n'a pas été la seule. Ça a été une cohorte de gens. Mais elle a été sans doute celle qui a été le plus loin d'en dire, il a le droit, il est un sujet, il a du désir, il a son histoire. Je pense qu'elle a été très loin là. Puis il y a eu ce miracle de la radio où ça a pris, je pense, parce qu'elle alliait une connaissance vraiment avec quelque chose, oui, qu'elle appelait le bon sens et de l'humour quand même. Elle savait botter en touche avec de l'humour. Elle revenait quelquefois d'une conférence, elle me disait « Tout le monde a été d'accord avec moi, c'est donc que je n'ai rien dit d'intéressant.
» Ouais. Oui, c'est drôle.
Et même quelques jours avant sa mort, jusqu'à sa mort, on a ri avec elle de sa mort. Et elle m'a dit cette chose magnifique, elle m'a dit « Écoute, c'est juste une fin de vie qui se déroule, alors si j'en fais pas une histoire, s'il te plaît, toi non plus. »
Non, c'est vrai que ça aide après à accepter à faire son deuil, en fait.
Oui, bien sûr.
Et puis, surtout, elle reste présente, parce qu'évidemment, elle a tellement marqué. Et vous-même, vous avez trouvé ce chemin, elle vous a ouvert la voie, d'une certaine manière. On n'ose pas aborder certaines questions avec les enfants. Et vous le faites très directement.
Mais parce que j'ai été toujours baignée là-dedans, et que, dans le fond, ces petits livres, ils viennent aussi de ma consultation. Parce que je me suis aperçue que les enfants se posent plein de questions auxquelles les parents n'ont même pas idée qu'ils réfléchissent. Donc, mes petits livres, la collection Mine de Rien, c'est comme des bouées que je jette à la mer. Je me dis, d'ailleurs, les enfants, mes copains psy me disent, tu sais, dans la salle d'attente, je vois quel livre il a dans la main et je sais pourquoi il vient. Moi, je trouve que transmettre, c'est un devoir. Et moi, j'ai beaucoup reçu. Alors, je transmets par le théâtre, par les livres, par mes patients, par l'enseignement. Et comme ça, je trouve que je fais ce que j'ai à faire.
Le problème, c'est qu'il y a des sujets... Déjà, les adultes ont parfois du mal à parler aux enfants sur des sujets qu'ils connaissent bien. Mais il y a des sujets que les adultes ne comprennent pas. Par exemple, s'agissant du Covid, on parle beaucoup en ce moment, que vous abordez dans votre livre « Confiné, déconfiné », comment parler de ce qu'on ne comprend pas nous-mêmes à des enfants?
Déjà, en le disant. C'est une maladie dont même les médecins ne savent pas tout. Donc il faut qu'on s'adapte. Alors tu vas voir, un jour on va nous dire une chose, une autre pas le contraire. Écoute, on ne comprend pas tous, mais on va faire ensemble. Ça suffit.
Mais est-ce qu'on peut tout dire à son enfant?
Non.
Justement, mais comment faire le tri?
Alors c'est ça, vous parliez de la vulgarisation. Du coup, on a fait, à partir de Françoise Dolto, une espèce de terrorisme de la vérité.
Oui.
D'abord, la vérité, elle est multiple. Il faut toujours dire à un enfant... Voilà moi ce que je pense. Puis toi, t'as le droit de penser autrement. Mais ça veut, on ne peut pas tout dire n'importe quand, n'importe comment, à n'importe qui. Par exemple, sur les grandes questions, il faut répondre aux questions qu'il pose. Par exemple, s'il pose une question sur comment je suis née, etc., pas lui faire un cours sur les trompes, les spermatozoïdes, etc. Et aller au fur et à mesure. Un enfant peut pas tout entendre tout le temps. Donc, en fait, la question de la vérité à l'enfant, c'est une question subtile et complexe.
Oui.
Mais dire le vrai, par exemple, les choses fondamentales qu'il concerne, ça, on doit le dire. Mais on peut le dire à tout âge, mais autrement. Avec, par exemple, les enfants qui sont nés par la PMA, etc. On a fait un livre là-dessus aussi. On dit la vérité quand ils arrivent. Et puis, déjà, c'est dit, donc c'est détabouisé. Et puis après, quand ça revient, plus tard, on en dit quelque chose. C'est dommage qu'on en ait fait une caricature, parce que c'est un bel art de dire le vrai, Et ça suppose beaucoup de respect pour celui qui écoute, et donc beaucoup de prudence de la part de celui qui parle.
Mais c'est donc pas dire tout et n'importe quoi, c'est faire ça qui a été déformé.
Et pas n'importe comment, et pas n'importe quel moment.
C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'enfant roi.
Mais
vous avez bien raison.
L'histoire de l'enfant roi, pour elle, ça aurait été... on se faisait engueuler, nous.
Mais oui, donc il faut relire Françoise Dolto dans le texte, plutôt que de la trahir en racontant ce que d'autres... En répétant ce que d'autres pensent qu'elle aurait dit. Merci en tout cas Catherine Dolto. Je rappelle votre collection de livres chez Gallimard Jeunesse, le dernier c'est Confiné, déconfiné, et apparaît forcément d'actualité L'Hôpital. Et Les Gros Mots aussi, je crois, apparaissent le 8 février.
Et après, il va sortir Ça fait du bien.
Parce que quand même...
Non, mais parce que je trouve quand même qu'il fallait faire un livre sur tout ce qui fait du bien dans la vie. Quand même.
Les Gros Mots, ça fait du bien.
Aussi, oui.
Oui.
Il faut savoir
le dire. Des gros mots.
Ah oui, bien sûr. Mais pas où. Voilà, même chose, pas n'importe comment.
Bah, dites-moi, moi, il a 8 ans.
Alors, ce que disait ma mère, c'est que ça fait partie de la culture et de la langue. Donc, un enfant a le droit de dire des gros mots, mais il va aux toilettes, disaient les cabinelles. Et puis, il l'écrit, comme Flaubert disait ses textes. Là, il peut les dire entièrement. Mais c'est culturel de connaître les gros mots. Oui. Mais ça se dit pas n'importe où, n'importe comment. C'est comme la vérité.
Très bien.
Voilà pour votre fils.
On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Catherine.
C'était une joie de parler de Françoise Dolto avec vous.
Oui, merci beaucoup.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Allongez-vous sur le divan, c'est le thème de notre émission cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Et après Freud et Dolto, vous allez maintenant, Mathieu, nous brosser le portrait, bon, à 99% vrai, de notre troisième personnage du jour, le contemporain de l'étape, Marc-Olivier Faugiel, qui lui a présenté Le Divan, l'émission télé sur France 3. Portrait qui, vous tenez à en assurer les auditeurs, sera parfaitement impartial, en dépit du fait que c'est Marc-Olivier Faugiel qui vous a lancé dans le métier, qu'il est caution de votre prêt immobilier, et que depuis 10 ans, vous passez une bonne partie de vos vacances d'été dans la maison qu'il loue au Cap-Ferré.
Effectivement, Stéphane, j'entends déjà ceux qui, connaissant ma proximité toute relative avec Marc-Olivier Faugiel, actuel directeur général de BFM TV, avec le succès qu'on sait, puisque BFM TV est la première chaîne info de France, plus 20% sur les CSP+, plus 17,3% sur les 16-25, se diraient « Oh, tiens, en lieu et place d'un portrait satirique, qu'on va avoir droit à un cirage de pompe en règle. » Comme vous vous méprenez sur mon indépendance journalistique, franchement. Si vous croyez qu'on peut acheter mon éthique avec des vacances au Cap-Ferré, franchement... Ah, pardon. Oui, Marco ? Ah, cette année, la villa est dans les 44 hectares, en première ligne, à côté de celle de Canet et Cotillard, avec la vue sur la dune du Pilat. Ok, super. Ah, je te laisse, j'ai un portrait très 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 satirique à faire, là. Oui, où en étais-je ? Ah oui, Marc-Olivier Faugiel est probablement le plus grand journaliste de sa génération. Raymond Aron disait de lui « C'est mon fils spirituel ». Quant à Freud, il a écrit dans son testament « Si un jour quelqu'un doit transposer la technique du divan à l'écran, je veux que ce soit Marc-Olivier Faugiel ». Alors oui, vous allez me dire « Marco n'a pas créé Le Divan, c'est Henri Chapier ». Ok, peut-être, mais franchement, mettez les deux émissions côte à côte en split-screen, façon avant-après, comme Benjamin Castaldi dans la pub Comme J'aime, vous verrez, l'amélioration est encore plus flagrante que pour Castaldi. À part la musique, qui a été conservée, le décor fait beaucoup moins Allemagne de l'Est. Hein. Adieu le jaune moutarde du divan, remplacé par une assise d'un rouge éclatant à la forme futuriste, genre un peu cocon d'hibernation pour voyageurs spatiaux dans un film de science-fiction. On sent que Marco n'a pas lésiné sur le budget de production. D'ailleurs, ça s'est un peu ressenti sur nos vacances au Ferré en 2015, puisqu'on n'était pas en première ligne et qu'on n'avait même pas de piscine. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai un peu pris mes distances avec Marco et que je me suis rapproché de Stéphane Bern, qui cultivait, lui, à Paros, un sens de l'accueil bien plus convivial.
Les après-midi se passent au bord de la piscine, le soir venu. Des prostituées font leur entrée pour divertir les invités.
Et puis, c'est ce que j'aime chez Stéphane Aparo, c'est qu'il n'est pas dans les 44 hectares, il a 44 hectares. Mais peu importe, car vous l'avez compris, je ne suis pas un pique-assiette.
Non.
C'est pourquoi très vite, dès qu'il a recommencé à investir autant dans ses vacances que dans ses émissions, je me suis à nouveau rapproché de Marco, mon ami de toujours, mon ami pour la vie. Ce génie qui a su forcer le destin pour sortir de sa condition misérable, puisqu'on le sait peu, Marc-Olivier Faugiel est né le 5 juillet 1969 en banlieue, à Neuilly-sur-Seine. D'un papa chirurgien dentiste, mais, et c'est ça qui est beau, malgré une scolarité en ZEP, au lycée Janson de Sailly, il a su s'arracher à l'étau cruel du déterminisme social grâce à son papa qui dévitalise les molaires des stars du PAF de l'époque. Le petit Marco se promène dans les coulisses d'RTL. Le bac en poche, et après un doc déco, sa fascination pour l'univers de la radio se concrétise. Il décroche son premier job, standardiste.
La honte.
Non, Stéphane, il n'y a pas de saut métier. Je rappelle que vous étiez dame pipi au château de Versailles. N'en rajoutez pas, je suis déjà suffisamment critique comme ça dans mon papier avec celui qui allait devenir le petit prince de l'audiovisuel français.
français. Car Marc-Olivier Fogiel, qui démarra en télé assistant de Patrick Sabatier, avant de piquer la place de Denisot le dimanche sur Canal+, c'est une carrière quasi sans faute, hein, une progression fulgurante, insolente, due à un travail colossal, mais aussi à un flair épatant, notamment quand il me prend en stage en 2005 sur l'émission T'empêche tout le monde de dormir, un fait important qui ne figure pas dans sa page Wikipédia, je le signale,
mais sur la
pour
faute,
qu'il
peut-être.
L'ajoute. Mais sur la mienne, évidemment. Après avoir connu l'ivresse du prime time en direct, le bonheur de se lever à 2h30 pour retrouver ma gueule et présenter la matinale d'Europe 1 de 2008 à 2011, Marco, fasciné depuis longtemps par la psychanalyse, lui-même en psychanalyse depuis 17 ans, décide de reprendre le divan d'Henri Chapier. Alors d'abord au sens propre, en tentant d'acheter aux enchères le célèbre divan jaune, en 2005, il est présent à la vente, il enchérit une fois, deux fois, et là ce jour-là, Stéphane Bern est également dans la salle, il met 65 000 euros sur la table, 65 000 boules pour un vieux divan, même Marco, qui a pourtant les moyens, ne peut pas suivre. Pas grave, 10 ans plus tard, avec la bénédiction d'Henri Chapier, qui est un ami, Marco rouvre le confessionnal le plus chic de l'histoire de la télévision. Le principe demeure, recevoir des célébrités qui viennent se confier sans filtre, de Fabrice Luchini à Mimi Mathy, en passant par Joey Starr, Béatrice Dalle, Jean-François Copé, Karl Lagerfeld ou encore Mireille Dumas. Sur ce divan, les stars lâchent prise, ce qui nous offre parfois de bien jolies formules, à la frontière d'ailleurs du lapsus, comme lors de la dernière avec un certain Stéphane Bern.
C'est une mère tellement castratrice que ça vous la coupe, quoi.
55 émissions, bah, c'est bien dit, c'est pas bizarre, vous l'avez dit, vous l'avez dit. 55 personnalités, le plus grand kiff pour Marco, je vais vous le dire, je pense que je sais, il me l'a pas dit, mais je le connais bien, je le devine, c'est le jour où Thierry Ardisson, son meilleur ennemi, a accepté de faire l'émission Le Divan, et qu'à l'issue de l'émission, il lui a encore plus ciré les pompes que moi là, ce qui vous donne une idée du niveau de cirage de pompes.
On m'a jamais interviewé comme ça, bravo, franchement. Je le savais un peu avant de venir, mais... ça se confirme, vous êtes un très bon journaliste, franchement, non c'est vrai.
Ardisson au bord des larmes, alors là, je vous dis mon Marco, il est au bord de l'orgasme. Entre 2015 et 2018, Le Divan connaît donc 4 saisons pour mieux connaître des personnalités publiques, normalement assez secrètes, mais aussi pour suivre l'évolution pilaire assez intrigante de Marc-Olivier Fogiel. Marco qui s'est beaucoup cherché ces années-là, du bouc foireux à la Chuck Norris, à la moustache ratée d'Errol Flynn, on a droit à tout. Sur le fond, il a en tout cas réussi son pari, se montrant à l'écoute, lui qui avait longtemps été caricaturé avec la Zaza par les guignols, comme un pitbull coupant la parole de ses invités, parfois de manière horripilante. Tout ça n'est plus qu'un lointain souvenir, ainsi que son côté un brin dictatorial. Marco n'est plus aussi dur qu'il a pu l'être par le passé avec ses collaborateurs. Et d'ailleurs, j'ai passé quelques coups de fil à BFM TV. Ses méthodes de management basées sur l'écoute et la co-gestion font l'unanimité.
À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, ta punaise ». Est-ce que c'est bien clair ?
Chef, oui, chef !
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
Chef, oui, chef !
Au Ferré, si t'oublies ton bol de Frosty sur la table du petit-déj, je peux vous dire que vous passez un sale quart d'heure. Faut pas croire que ce soit de tout repos les vacances avec Fogiel. D'ailleurs, Stéphane, vous faites quoi cet été ?
Pas grand-chose.
Mais vous m'invitez ?
Oui, très bien.
Oui, j'aime varier les plaisirs. En tout cas, aujourd'hui, notre ami Marco est pleinement investi dans son nouveau boulot, corriger toutes les fautes d'orthographe sur les bandeaux défilants de BFM TV.
Ah oui, ça, il y a du boulot.
À raison de 12 par minute, ça lui fait de grosses journées. Il n'a pas toujours son dimanche. J'espère quand même qu'il aura 2 semaines en juillet, ou qu'au moins, il aura la présence d'esprit de laisser les clés sous le paillasson pour les copains. Moi, j'ai un créneau du 7 au 18 cette année. Ah, Marco ? Alors, t'as écouté ? J'ai tout dit comme on avait dit, hein. Que des trucs sympas. Rien de perso. Mais j'ai pas révélé ton surnom. Ah non, j'ai dit à personne qu'en privé on t'appelait Pipou. Non, je me suis dit non, Pipou, quand même si les employés de BFM ils apprennent ça, tu ne serais plus jamais crédible. Oui, bien sûr. Allez, bisous Pipou. Oui, j'oublie pas mon maillot de bain, c'est con.
Ah, merci beaucoup Mathieu, c'est 99%. Non, c'est moins de 99%.
Et le 1% faux, c'est pas Pipou. Je l'embrasse.
Oui, non, c'est Pipou à l'appareil. Quel enfoiré, ce Mathieu.
J'ai pas dit le pire.
Pour le Cap Ferré, il va pouvoir se brosser. Quel enfoiré. Où y a-t-il une faute d'orthographe dans le bandeau de BFM?
Ah ben,
il
n'y en a plus. Toutes les 5 minutes.
Bon, alors, je vais raconter une anecdote, hein, moi, puisque Mathieu...
Il n'y en a pas.
Quand Mathieu, par exemple, travaillait avec moi sur la matinale d'Europe 1, une fois, il avait lu le livre de Martin Hirsch qu'on recevait, et il m'avait fait des questions. Et en fait... il prêtait à Martin Hirsch des propos qu'il n'avait jamais tenus sur Nicolas Sarkozy. Donc il me fait poser une question à Martin Hirsch. Je vous avais dit, que Nicolas Sarkozy, ceci, cela. Martin Hirsch me regarde avec des yeux écarquillés, me rappelle après. Et en fait, Mathieu s'était trompé. Il ne parlait pas du tout de Nicolas Sarkozy. Il s'était trompé de ligne. Donc depuis, je lis tous mes livres tout seul, parce que Mathieu, il lui arrive de faire beaucoup d'erreurs. Donc maintenant, je lis Pif Gadget très bien tout seul le matin, le journal de Mickey, tout ça. J'ai plus besoin de Mathieu Noël, et heureusement, je voulais laisser, mais c'est pas
là. Ah oui.
Oui, et maintenant, c'est moi qui lui écris des conneries.
Non, mais c'était plutôt un portrait sympathique. Juste un mot, Marc-Olivier, comme on parle de Freud et de François Zolto et de la psychanalyse, c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans votre vie, la psychanalyse?
Sans faire du trémolo, mais la psychanalyse m'a sauvé, ouais. La psychanalyse m'a sauvé. J'ai passé 18 ans sur un divan, et si je suis aujourd'hui le papa accompli de deux petites filles mariées, heureux de l'être et sans tabou, et si aujourd'hui je me suis un peu dégagé de l'image médiatique qui était la mienne pour me recentrer sur ce que j'aime faire en dirigeant BFM TV, je pense que je le dois à mon analyste qui, hélas, n'est plus là aujourd'hui et qui, pendant 18 ans, m'a écouté, m'a aidé et, je dois dire, m'a sauvé. Quand il est mort, je crois jamais autant pleuré, sauf pour mon père.
Et vous avez arrêté ce jour-là?
Non, j'avais arrêté avant, j'avais arrêté un an avant. J'ai mis beaucoup de temps à arrêter l'analyse, d'ailleurs. Ça faisait 2 ans qu'il me disait qu'on était au bout du travail. Et puis finalement, il m'a fallu 2 ans pour lui dire au revoir.
Ça faisait 2 ans que t'étais beaucoup plus sympa, c'est vrai, j'avais noté. T'étais au bout de l'analyse, je te le disais, ça sert plus à rien de payer, ça sert plus à rien.
Je conseille vraiment à Mathieu d'aller s'allonger.
Oui, d'aller
sur le divan, et avant l'été prochain, s'il veut venir au Cap Ferret.
Ça marche. C'est 18 ans de psychanalyse, c'est le PIB du Burkina Faso.
Il était animateur producteur, hein, il avait les moyens.
J'avais les moyens parce que je payais pas Mathieu qui...
il me sous-payait, c'est un autre dossier.
Non, non, mais
on fera une autre émission là-dessus.
En tout cas, il est rouge de confusion, Mathieu Noël.
Il se fout de mon bouc et de ma barbe. Je suis pas très sûr que son look avec cette espèce de barbe,
qu'est-ce qu'elle a,
un peu hipster.
Oui, soit, c'est les hipsters, mais sort un peu. On peut plus sortir maintenant, mais tu verras, les hipsters dans les bars, c'est la barbe du moment, oui.
Ouais, la barbe hipster qu'il a depuis quand même ses 18 ans.
Oui, c'est vrai, donc, mais j'étais très en avance sur la mode, c'est pour
très,
ça.
Très en avance. Le problème, c'est que la mode t'a largement rattrapé et voire dépassé. C'est un peu ça le sujet quand même, mais bon.
Voilà. Bon, je vais refaire le portrait. Marc-Olivier Faugiel.
Mais règlement de compte à OK Corral. Merci beaucoup, Marc-Olivier.
J'étais ravi de participer à cette émission.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse. Salut Mathieu.
Bisous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, dédié non pas à un retour vers le futur, mais plus modestement, un retour vers le présent.
On n'a pas les moyens d'un retour vers le futur, ça serait. On va parler des cuisses de grenouille avec Olivier Pouls, un plat que vous affectionnez particulièrement. Mais qui a eu l'idée, le premier, de bouffer des cuisses de grenouille?
J'ai un nom.
Vous avez un nom?
Non.
En particulier.
Excusez-moi, Mathieu. C'est comme celui qui a le premier l'idée d'ouvrir une moule ou d'ouvrir une huître.
Mais vous avez vu ma curiosité? Je vous fais tellement confiance que le mec me dit qu'il a le nom du premier type qui a bouffé une grenouille. Et je lui dis, ah bon? Vous allez nous le donner en exclusivité sur Europe 1. Le mot de la fin, Stéphane, vous l'avez.
Froggies.
Et ça parle de grenouilles aussi. Pourquoi
on nous appelle des bouffeurs de cuisses de grenouilles?
Là aussi, il y aura du scoop, mais d'abord, les origines avec David Castello-Lopez. Les origines aujourd'hui de la nourriture surgelée.
Et oui.
Et depuis quand?
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Lui aussi consulte un psy, mais a raison pourtant de 5 séances par semaine. Ça n'avance pas beaucoup pour David Castello-Lopez, diagnostiqué cyclothymique par son psychiatre qui ne sait plus quoi lui répondre quand il lui dit
« Michel a encore dormi chez moi hier.
Michel a encore dormi chez moi hier. »
David Castello-Lopez, essaie de vous recentrer et parlez-nous des origines. C'est votre spécialité dans cette émission, les origines aujourd'hui de la nourriture surgelée.
Oui, tout à fait. Moi, quand j'étais petit, j'habitais à côté de la place de Clichy, à Paris. Et il y avait un événement que j'attendais assez fort. C'était le moment où on sortait avec ma mère dans sa Renault 5 grise pour aller à 600 mètres, parce que c'était comme ça les années 80. On prenait la voiture pour aller partout.
Sans ceinture de sécurité.
Et on allait rue de Rome, dans ce qui était alors le seul magasin Picard du quartier. Et moi, j'aimais vraiment beaucoup Picard, surtout à cause des grands coffres glacés. Et on les ouvrait, ça vous faisait comme une sorte de petit Hiroshima froid dans le visage, vous voyez. Et là, on pouvait prendre tout ce qu'on voulait, des juliennes de légumes, des macédoines, des sachets de Saint-Jacques. Et aussi un truc que je vois plus trop de puis, qui était du jus d'orange congelé. C'était des cylindres en plastique qu'on ouvrait, qui contenaient un glaçon de jus d'orange cylindrique.
On mettait de l'eau dedans.
Et après, on faisait fondre dans un verre et on avait du jus d'orange frais et c'était génial. Et je dois dire qu'aujourd'hui encore, j'ai gardé une certaine excitation quand je suis au rayon surgelé des supermarchés et surtout une excitation pour les produits qui ont le bon goût de ne pas avoir besoin d'être décongelés avant d'être cuits.
Ah oui, ça c'est bien.
Et donc, ils combinent le côté pratique de la conservation perpétuelle au côté pratique de pouvoir être consommé sans préavis. Ça, c'est le graal des paresseux et moi, j'adore. Voilà. Mais alors, d'où ça vient, ces pépites de joie venues du froid? J'aime bien être pompeux un petit peu inutilement, vous voyez, c'est comme ça. Bon, on se doute bien que dans les pays froids, ça fait longtemps qu'on congèle les trucs.
Ah oui.
Mais on était obligé d'attendre qu'il fasse froid, sinon on pouvait pas. Hein, voilà, c'est comme ça. Et puis au 19e siècle, on a inventé le froid artificiel. J'en parlerai un jour ici, mais ce n'est pas l'objet de la chronique. Et pour la première fois, donc, on a pu créer du froid sur commande. Et on a commencé à congeler des choses pour les conserver. Mais de façon unanime, les produits qu'on congelait, une fois décongelés, ils étaient pas top top et notamment ils avaient une texture un petit peu naze. Donc ça avait super mauvaise réputation. Et puis un jour, il y a un monsieur qui est intervenu qui s'appelle Clarence Birdseye. Clarence, c'était un biologiste américain. Et en 1912, il est parti dans le Grand Nord canadien. Il est devenu négociant en fourrure de renard. Voilà, c'était quelque chose qu'on pouvait faire en 1912. Et il a été amené à croiser des Inuits. Or, les Inuits, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont quand même super forts en congélation. Puisqu'en fait, je veux dire, la totalité de leur existence est congelée. Et Clarence, il a remarqué que les Inuits, quand ils pêchaient un poisson, ils le jetaient sur la glace immédiatement après. Et comme il faisait moins 30 degrés, le poisson se congelait hyper vite. Et il a remarqué aussi que quand on ressortait les trucs congelés de cette façon plusieurs mois plus tard, eh bien les trucs étaient pratiquement aussi bons que si on les avait mangés direct. Et il s'est dit, mais attends, la clé c'est ça, c'est de congeler les trucs immédiatement et très vite. Et il avait parfaitement raison. Et ça s'explique. En gros, quand vous congelez quelque chose lentement, il y a des cristaux de grosse taille qui se forment dans la nourriture. Et ces cristaux, ils ont tendance à casser la structure cellulaire du produit. Et donc quand vous décongelez, eh bien, la texture, elle est nulle. Tout a un peu la consistance d'une éponge farineuse, un peu naze, vous voyez. Alors que quand vous congelez la chose super vite, eh bien, les cristaux qui se forment sont beaucoup plus petits. Et donc, ça préserve la texture. Et quand vous décongelez vos petits pois en 2023, ils sont presque aussi bons que quand vous venez de les cueillir. Alors, Clarence, il est revenu aux États-Unis au début des années 20 et il a construit des machines pour essayer de congeler les choses vite. Et il y est arrivé, mais il s'est un peu heurté à un problème, c'est qu'il n'y avait aucun système de distribution de la nourriture surgelée. Et dans les 20 ans qui ont suivi, c'est ce qu'il a fait en fait. Il s'est démené pour que ce réseau existe.
C'est le même mec qui a tout fait en fait.
Et c'est pas le seul, mais c'est vraiment un type qui avait la vision du début à la fin, quoi. Il s'est démené pour que les magasins de nourriture s'équipent en présentoirs qui puissent conserver le froid, pour que les livreurs, ils aient des camions réfrigérés. Et c'est lui aussi qui a développé tous ces emballages sympas où on voit les petits pois tout froids à travers le cellophane pour que les gens aussi aient envie de les acheter. Mais bon, ça a mis quand même pas mal de temps à avoir du succès puisqu'en gros, les surgelés, ils ont explosé que après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les classes moyennes des pays riches, ils ont commencé à avoir des congélateurs à la maison. Parce que c'est la dernière étape qu'il faut. Il faut que les gens aient des congélateurs chez eux. Mmh. Et aujourd'hui, Mathieu, Stéphane, Olivier, le marché des surgelés dans le monde, c'est 250 milliards d'euros. C'est le PIB du Qatar. Voilà.
Ce qui est choquant, c'est que le PIB du Qatar soit ça.
Oui, c'est un tout petit pays avec peu de gens, 250 milliards.
Beaucoup de pétrole, effectivement. C'est sidérant. Mais vous nous ferez l'histoire du congélateur ensuite pour
savoir quand le
congélateur, parce que ça c'est ça qui a permis
la congélation au premier lieu. Là, c'était plutôt le comment est-ce qu'on a fait des produits congelés qui ont été susceptibles d'être bons et mangeables par tout le monde.
La célèbre enseigne dont vous parliez aujourd'hui, il travaille effectivement en bout des champs. Donc les produits sont cueillis et surgelés instantanément à une température évidemment très très froide, moins 70 degrés.
Vous avez des actions chez Picard, vous.
Non, mais c'est vrai que c'est la seule manière. Non, mais je me redonnerai mon adresse pour qu'il me livre.
Vous avez des moelleux, les gâteaux au chocolat de chez Picard. Allez, je peux vous les servir. Vous croyez que c'est moi qui l'ai fait.
David, vous parliez de l'excitation que vous aviez dans le rayon. Moi, alors, je n'ai pas la même excitation, mais mon fils de 8 ans a la même. Quand on peut aller dans cet établissement, c'est la fête. Il me dit, on y va aujourd'hui.
Surtout en période de canicule. J'ai remarqué que cet été, on prenait beaucoup de plaisir à flâner.
On va faire une promenade chez Picard. Quand on achète rien.
C'est frais.
D'autant que les musées sont fermés, donc ça.
Ça va rouvrir un jour.
Bien sûr.
On peut l'espérer.
Bien sûr.
Et on est encore
c'est
là.
Temps qu'on entame tous une psychanalyse, les amis. C'est le thème de notre émission. Oui, ça nous ferait beaucoup de bien. Mais avant cela, je vous propose de déguster.
Merci. Non, j'aimerais pouvoir dire pardon, Mathieu.
Vous tenez absolument à remercier David. Oui, parce que vous pensez qu'il va se vexer si on lui dit pas merci.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les origines sur les applis audio et sur le site europe1.fr.
C'est vrai que c'est tout à fait vrai, je vous invite à le faire. Et vous pourrez retrouver également la chronique d'Olivier Pouls qui arrive sur les cuisses de grenouille. Qui a eu l'idée de manger pour la première fois des cuisses de grenouille? Il a, m'a-t-il dit, le nom.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Les débats vont bon train aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, puisque Stéphane, toujours pionnier de la pensée, posait cette question hors antenne. Qui est la première personne à avoir eu l'idée de manger une huître? Parce que l'huître, il faut effectivement l'ouvrir.
Bien sûr. Si elle était déjà ouverte, c'est qu'elle est pourrie.
Elle est plus bonne.
Donc elle est plus bonne.
Il y a forcément un gars qui l'a fait, mais il n'est plus là pour le raconter. C'est ça le truc, c'est que la sélection a dû s'opérer comme ça, parce que je pense que dans l'histoire de l'humanité, on a tout goûté. On a goûté toutes les plantes,
les champignons,
évidemment.
Il y a eu des décès.
Il y a forcément des gars qui ont goûté à un moment des amanites et ça s'est mal passé.
Alors, ce qui est très bon, mais il faut le savoir, Stéphane Bern n'en a jamais mangé de sa vie, il nous le confessait tout à l'heure, les cuisses de grenouille.
Bah oui, pourtant c'est délicieux, c'est un plat assez emblématique de notre cuisine française, puisque vous y reviendrez dans un instant.
Vous avez lu le patrimoine, ça n'intéresse pas.
Taxé d'être mangeur de grenouilles par les Anglais. Oui. Mais pourtant, on n'est visiblement pas les premiers à s'être intéressés à ces petits batraciens, et en tout cas à les avoir mis dans nos assiettes, puisque les Chinois, les Aztèques, et même, figurez-vous, les Anglais en mangeaient il y a plus de 8000 ans. Et c'est une révélation qui a fait du bruit.
Les Anglais n'existaient pas
il y a
8000
années. Bon, en Angleterre existait en tout cas. Et on a retrouvé sur un site archéologique en Angleterre actuelle des traces d'eau de petits batraciens qui attestent que les Anglais à cette époque mangeaient des cuisses de grenouilles, figurez-vous.
Alors chez attendez, excusez-moi, oui. Je ne veux pas contester contre cette
oui, mais
on peut retrouver des
os,
on peut retrouver des os de grenouilles.
Ça veut dire qu'on les a
mangés sans qu'on les ait mangés.
Non, parce que c'était sur un site où il y avait d'autres restes de repas et c'était mélangé et on a compris qu'évidemment c'était pas des grenouilles qui étaient bêtement mortes là, mais qu'il y avait tout autour des indices qui permettaient de
qu'on avait mangé, on leur avait mangé,
on les avait mangés.
La cuisse.
Alors que chez nous, c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est vraisemblablement autour du XIIe siècle qu'on se met à manger des cuisses de grenouilles. Pourquoi? Parce qu'il y a dans certains coins pas grand-chose à manger, le poulet il est pas facile à attraper, et puis finalement on se dit pourquoi pas ces petits animaux, qui d'ailleurs sont déconseillés par les médecins de l'époque, qui considèrent que c'est peut-être pas très prudent de manger ces cuisses de grenouilles, mais qu'importe, finalement on aime ça, et notamment c'est réservé à une certaine élite. Alexandre Dumas le mentionne d'ailleurs dans son dictionnaire de la gastronomie, il en parle, et probablement a-t-il contribué lui aussi au travers de ses écrits à remettre les cuisses de grenouilles sur les tables. Malheureusement, les cuisses de grenouilles aujourd'hui françaises sont rares. C'est la région des Dombes qui historiquement était productrice, où on allait les pêcher, où on les ramassait, donc d'où la cuisine lyonnaise très imprégnée de recettes de cuisses de grenouilles. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a plus beaucoup, à tel point qu'on a dû protéger l'espèce depuis 1979. Alors il y a encore des pêches qui sont autorisés, il y a quelques élevages, mais très peu. Et l'immense majorité des cuisses de grenouilles qu'on mange chez nous aujourd'hui, elles sont surgelées et elles viennent de l'autre bout du monde. Elles viennent de Turquie, d'Indonésie ou du Vietnam. Et puis, il y a quelques grands chefs qui ont donné aux cuisses de grenouilles leur lettre de noblesse. Vous en parliez, Georges Blanc, que vous connaissez bien, Antoine Westermann avec un plat, ce qu'on appelle les plats signatures autour des cuisses de grenouilles, et bien évidemment Bernard Loiseau avec ses fameuses cuisses de grenouilles à la purée d'ail. On associe souvent la cuisse de grenouille et l'ail. Moi, j'ai une autre recette à vous proposer, qui est ma recette préférée des cuisses de grenouille. Je vous les ferai, Stéphane, et vous acceptez de les manger.
Oui,
vous n'avez pas
sûr.
D'interdit.
Si vous ne me dites pas que c'est des cuisses de grenouille.
Ah ben, ça, vous allez le voir. Hein. Je vous annonce
que... On dirait que c'est des petits poulets.
Ouais,
des petits poulets minuscules.
Oui. Des minuscules poulets, alors.
C'est de l'ortolan.
faites simple, mon brave.
Alors, essayez de vous procurer... ça coûte assez cher, hein, des cuisses de grenouille françaises. Il en faut, une petite dizaine de cuisses par personne. Moi, je les fais au Riesling. Parce que je trouve que l'association de l'acidité du Riesling, un Riesling sec et des cuisses de grenouille, ça marche très bien. Donc vos cuisses de grenouille, vous allez légèrement les fariner, en les tapotant pour enlever l'excès de farine. On va les faire revenir dans une poêle bien chaude avec un beurre noisette pour bien les dorer, qu'elles soient presque un petit peu croustillantes à l'extérieur. On déglace avec un petit trait de Riesling à 10 centilitres. Un petit peu de crème liquide, on laisse réduire de manière à ce que la sauce acquiert une belle consistance un peu nappante. On va juste rajouter un petit peu de persil, sel, poivre, et on mange ça avec les spätzle en Alsace. Et je trouve que c'est une association, une manière en tout cas de manger les cuisses de grenouille avec les doigts, évidemment. Ça, tac.
C'est ça peut-être.
C'est régressif, c'est jouissif.
Vous mangez avec les doigts, Stéphane?
Vous savez, l'impératrice Eugénie mangeait son poulet avec les doigts. Donc depuis
qu'elle a fait ça, elle a ouvert la voie finalement à tous les mangeurs. Les mangeurs avec les doigts.
En fait,
elle a légalisé l'usage des doigts pour le poulet.
Des références comme ça.
En tout cas, il m'intéresse de savoir pourquoi les Anglais nous traitent de bouffeurs de grenouilles.
Et bien,
parce que nous sommes au demeurant, d'ailleurs.
Vous savez quoi? On va le savoir, grâce à qui?
The Froggies. Mais d'abord, on peut retrouver la recette d'Olivier europe1.fr.
C'est vrai. Et dans un instant, d'où vient l'expression Froggies? J'ai ma petite idée.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre touche à sa fin, et quand l'émission touche à sa fin, c'est que Stéphane Bern est dans les starting blocks pour sa rubrique Le mot de la fin, chaque jour, l'histoire d'une expression.
Oui, Mathieu, pourquoi de façon goguenarde nos amis Rosebif, oui, c'est comme ça qu'on les appelle, comprenez les Anglais, nous appellent les Froggies? Voilà la question à laquelle je vais répondre cet après-midi en toute simplicité et amitié, parce que j'adore nos cousins britanniques.
Même
évidemment.
Si vous les appelez Rosebif, hein, visiblement, Stéphane. Froggies, c'est grenouille. Hein. J'ai toujours entendu dire que c'était à cause ou grâce, d'ailleurs, à notre passion culinaire pour les cuisses de grenouille, dont Olivier Pouls vient de nous vanter les mérites. Est-ce que c'est ça, tout simplement?
C'est ça, mais pas que. C'est ça qui devient intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, là où aujourd'hui se trouve le musée d'Orsay à Paris, il y avait une berge marécageuse dans laquelle de nombreux batraciens faisaient un bruit de tous les diables. Le quartier était réputé pour ses lavandières et ses blanchisseuses. On y parlait un patois assez rustre, jugé même de façon condescendante par les gens de la haute société. Rapidement, à la cour de Versailles, puis à Londres, où bon nombre de nobles s'étaient réfugiés, hein, on désignait ces gens par le mot « grenouille ». C'est ainsi qu'on parlait des révolutionnaires français. Parce que vous savez qu'à la Révolution, eh bien, beaucoup de nobles français sont réfugiés en Angleterre. Comme ils venaient de là, on les appelait les grenouilles. Puis on a appelé comme ça les Français, tout simplement. Surtout pendant la période napoléonienne, qui était, il faut bien le dire, comment le dire gentiment, l'apogée de la détestation entre les deux pays. Mais terminons, si vous le voulez bien, sur un joli proverbe. Poser une grenouille sur une chaise en or, elle sautera à nouveau dans la mare.
Confucius?
Non.
On sait pas. Ah, c'est anonyme.
Anonyme.
Citation anonyme. Les amis, je crois, c'est triste parce qu'on était vraiment bien, mais je crois que notre spécial consacré au plus grand psy de l'histoire de Freud, à Marc-Olivier Fogiel, s'achève. Est-ce que vous y voyez plus clair en vous-même, Stéphane?
Oui, en fait, j'ai essayé de faire un calcul.
De combien vous avez écouté le psy pendant toutes ces années?
Non, j'ai jamais consulté.
Jamais. Vous n'en avez jamais ressenti besoin?
Non, mais parce que ça m'inquiète 18 ans, à raison d'une séance par semaine, c'est ça?
Marco? Oui. Il y a les deux fois.
Deux fois.
Oui.
Donc,
le mardi et le jeudi.
52.
Oui, j'ajoute quelques précisions.
Il y a 52 semaines. 52 semaines. Il y a donc 104 fois. Multiplié par 18 à 200 euros la séance.
Oui. C'était un ancien franc à l'époque, hein, monsieur.
Ouais, mais enfin,
ça fait beaucoup. Ça
fait beaucoup.
Beaucoup,
hein.
C'est pour ça qu'il a accepté BFM TV. Hein,
Il faut des moyens.
Il faut
des moyens pour aller voir un psy.
Vous, les amis, vous avez déjà consulté?
Ah oui.
David, le cri du cœur. Et c'est pas fini, visiblement.
C'est du lourd.
Pas fini. Espérons que votre psy à vous ne décède pas. Vous en avez encore besoin quelques années.
Je suis plutôt en thérapie culinaire. Ça marche assez bien. Ça coûte cher aussi, mais ça marche bien.
Stéphane, est-ce que vous sauriez nous livrer le programme qui nous attend demain?
Oui, je vois. Non, demain, on réunit des Lady Traquées. Ladies Traquées. La star du jazz new-yorkais, Billie Holiday, dite Lady Day, traquée par le FBI. La princesse de Galles, Lady Di, traquée par les paparazzi durant toute sa trop courte vie.
Et plus récente et toujours vivante, Lady Britney Spears, traquée aussi, vous l'avez compris, par sa mère, qui lui a tout simplement fait implanter une puce GPS dans l'épaule pour la suite quand elle n'allait pas bien. Je vous jure que c'est vrai. Je suis pas sûr qu'elle aille mieux, d'ailleurs, vous verrez demain. En tout cas, on quittera très clairement la méthode Dolto.
J'y crois pas. À demain, Mathieu. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.